Francis Dehaene, nous sommes venus, on avait promis lorsque on a parlé de ce salon, on est venu les exposants, on a fait un petit tour, c'est un succès cette édition.
Ben, je suis content, d'abord parce que tout s'est déroulé normalement, il n'y a pas eu de problème de dernière minute, et les gens sont très très satisfaits de ce qu'ils voient, parce que de nouveau toutes ces collections nouvelles, parce que c'est complètement nouveau, et c'est vrai que ça surprend beaucoup les visiteurs.
Alors vous aviez raison, c'est vrai qu'il faut quand même qu'on vienne pour s'apercevoir, on prend une leçon, mais vraiment une leçon d'histoire. Là, je me suis arrêté longuement sur le stand médecin, où la personne nous dit, mais il n'y a pas d'objet médecine, mais je vais vous présenter qui est derrière, et on apprend des choses.
Ah oui, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, c'est une exposition qui est gratuite, donc où les gens viennent pour partager avec les exposants. Il y a toujours des histoires merveilleuses. Hier, quand on a fait l'inauguration, d'habitude, on dit que ça dure une demi-heure. Une heure et demie, parce qu'ils s'arrêtaient à chaque stand. Et j'arrivais pas à me sortir de cette inauguration.
Et bon, et bien voilà. C'est une belle édition. On aura bien sûr l'occasion de vous retrouver sûrement l'année prochaine pour une nouvelle. Il y a les pompiers qui sont là, qui présentent des anciens véhicules, aussi à l'intérieur.
Oui, voilà. Donc aujourd'hui, on voulait mettre à l'honneur les pompiers, parce que c'est vrai qu'ils ont été très sollicités pour cette année 2025. Mais c'est vrai que c'est toute une histoire, notre salon. C'est vraiment un truc qu'il faut venir voir. Oui. Et je suis content aujourd'hui que vous soyez venu, mon cher Philippe, parce que c'est vrai que faire des interviews comme on les fait chaque année, tant qu'on n'a pas vu...
On ne sait pas. Et vous aviez raison. Très belle édition. Merci beaucoup, monsieur Dehaene. Nous sommes au salon des exposants ici à Soumoulou et on est arrêté dans un stand un peu particulier où on peut s'y tromper. On parlait de médecin, mais il n'y a rien sur la médecine. En fait, vous avez pris un autre parti pris.
Oui, alors ici, nous avons appelé cette présentation Sacré Toubib, où on présente des profils de dentistes, médecins, pharmaciens, que l'on connaît soit par leur nom, mais ou que l'on ne connaît pas, mais dont on connaît soit une réalisation qu'ils ont faite. Par exemple, Agatha Christie, on la connaît pour ses romans, mais en fait, Agatha Christie est pharmacienne.
D'accord.
Voilà. Nous avons Francis Lopez, qui est connu pour ses opérettes. Mais en fait, Francis Lopez est un dentiste.
D'accord.
Voilà.
Et on a aussi, j'avais Sherlock Holmes. Et vous
alors,
que...
voilà, l'auteur de Sherlock Holmes, Conan Doyle est un médecin. Voilà. Donc le but, en fait, c'est pas de présenter des instruments de médecine, vous n'avez que deux, en fait, au total, mais de présenter des réalisations qu'ont fait ces médecins en dehors de leur métier de médecin.
Ils ont été presque plus connus par leurs réalisations que par le fait qu'ils soient médecins ou pharmaciens.
Voilà, souvent c'est ça. C'est souvent, ben, on va ignorer voilà, que le créateur du guignol, Mourguet, était un arracheur de dents, l'ancêtre du dentiste. Hein, que l'inventeur de la barbe à papa, Morrison, c'était un dentiste. On connaît la barbe à papa, mais on ne sait pas que c'est un dentiste qui l'a fait. Hein. Le docteur Doléris, qui est de Limbeil, eh ben, était un obstétricien. Et il a été passionné par tout ce qui est viticole, vigne et autres. Et donc, quand on parle de Doléris, on parle plus du promoteur du Vic Bill que de l'obstétricien. Voilà, c'est...
Et Parmentier, il y a Parmentier...
Parmentier, bon, dont on parle souvent une Parmentier, le hachis Parmentier, bon, c'est pas que Parmentier, tout simplement. C'est un pharmacien qui a toiletté la pharmacopée française, qui a fait la promotion de la pomme de terre pour lutter contre les famines, en fait.
Parce qu'on ne consommait pas la pomme de terre au début, c'était pour les animaux.
Voilà, la pomme de terre en France n'était pas consommée, on en avait peur, on la connaissait. Mais Parmentier avait été, nous, étant prisonnier dans sa jeunesse en Prusse, avait été nourri par la pomme de terre. Donc il connaissait la valeur nutritive de la pomme de terre et il en a fait la promotion, tout simplement. Voilà.
Vous êtes collectionneur depuis combien d'années et comment vous êtes venu cette idée vous-même, vous êtes dans la médecine?
Non, alors moi je suis pas. J'ai été militaire. J'ai travaillé beaucoup dans le patrimoine militaire, les archives, les musées et autres. Actuellement, je suis réserviste aux écoles de santé de Lyon. Voilà, où j'enseigne un petit peu l'histoire de la médecine aux élèves. Mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier, je ne suis pas docteur. Voilà, pas du tout. Et là, je collectionne depuis une trentaine d'années. Donc en fait, le but, voilà, c'est ça. C'est d'amener les gens sur un moyen détourné à la médecine.
À la médecine et à l'histoire, parce qu'on passe un bon moment en vous écoutant et on apprend des choses dont on ne soupçonnait pas.
Voilà, c'est d'aborder l'histoire de manière un peu ludique, hein, et puis d'essayer de comprendre comment ces gens, comme je vous ai expliqué pour la mitrailleuse, quel a été le raisonnement du médecin pour inventer la mitrailleuse.
C'était pour sauver des vies. Ça me paraît antinomique, mais...
C'était au début, Gatling se dit, si on peut réduire le nombre de combattants et remplacer ces combattants par une machine qui a même puissance de feu, il y aura moins de combattants, il y aura moins de morts.
C'était son raisonnement.
Guillotin et Louis vont faire la promotion de la guillotine pour humaniser la peine de mort, pour éviter toutes les tortures que l'on faisait avant, une exécution, comme pour Damien, ainsi de suite. Mais Guillotin, quand il va apprendre qu'on va surnommer cette machine la guillotine, il va déprimer, quoi. Vous voyez, donc c'est quel impact également ont eu ces réalisations sur la vie de leur auteur. Et encore, on aurait pu en présenter beaucoup plus, on aurait pu présenter Rabelais pour Gargantua, on aurait pu présenter un autre qui n'a pas été médecin, qui n'a pas été pharmacien, qui a été simplement étudiant en pharmacie, c'est Jean Lefebvre. Voilà, d'accord. Jean Lefebvre. Hector Berlioz, qui était étudiant en médecine, mais qui a fait de la musique après. Donc, on a été un peu réduit par la place, mais bon, on aurait pu en présenter facilement une dizaine de plus, quoi.
Alors, dans ce salon, il y a des gens qui viennent de tout horizon de France. Vous venez d'où, personnellement?
Nous, on est des régionaux de l'étape. On vient de l'Ouest, à côté de Tarbes. Hein. Et puis, on vient régulièrement. On prend un thème médical différent chaque année. Bon, on connaît l'organisateur. Et voilà. On évolue autour de la médecine, mais sur des axes différents, quoi, des approches différentes.
Un grand merci à vous.
Je vous en prie, monsieur.
On continue notre petite visite dans cette exposition. Et là, on tombe sur un stand de casse-noix. Il y en a un peu de tout. Il y en a en bois, il y en a en métal, il y en a des humoristiques aussi, parce qu'il y en a une avec Hillary Clinton qui est assez marrante. Et oui, et George Bush, effectivement, également. Ce sont des objets. Comment vous en êtes arrivé à vouloir faire une collection de casse-noix? L'objet est magnifique. Il y a vraiment de très, très beaux objets.
Oui. Alors donc, moi, je suis collectionneur dans l'âme. C'est parti d'une autre collection. Je collectionnais les bouchons articulés et les figurines Henri. Et donc j'ai trouvé l'objet très beau et je me suis dit pourquoi pas faire une collection de casse-noix. Et au fil des annonces que je voyais, je voyais déjà une diversité pour d'objets pour casser les noix. Donc je suis parti comme ça, puis j'en trouve.
On vous les donne, vous les achetez?
Je les achète. Je fais des salles des ventes, je fais des brocantes professionnelles plutôt. Dans les vide-greniers, on en trouve un peu, mais on trouve des récents beaucoup. Dans les brocantes, on en trouve beaucoup plus. Les brocantes professionnelles, voilà.
Il y a beaucoup d'objets. Est-ce qu'il y en a un, sur tous ces casse-noix, qui est votre préférence?
Moi, j'aime bien les objets en bois. Je suis menuisier de métier. En bois, il y en a vraiment des très, très beaux.
Il est magnifique,
oui,
là.
Oui, hein, oui, oui. Mais autrement, en bois, vous voyez, vous avez celui-ci. Celui-ci, moi, j'ai toujours pensé que c'était asiatique.
Alors, on va essayer de le décrire, parce qu'à la radio, on ne voit pas les images, mais voilà. C'est une sorte de chien ou de...
Oui, ou un dragon.
Un dragon, oui, hein, plutôt. Voilà.
Et donc, il y a du détail, vous voyez, c'est perforé et tout. Moi, j'ai toujours pensé que c'était asiatique. Les dragons, là, comme on voit beaucoup en Chine et tout. Et puis, en fait, j'ai découvert dans un bouquin de salle des ventes, une vente Drouot, en fait, il est français. Il est français, ce casse-noix. C'est impressionnant.
Il y a une vis. Voilà.
C'est un casse-noisette, en fait. C'est pas un casse-noisette.
On met la noisette et puis on visse et elle se craque. Voilà.
C'est ça. Ouais.
Et sous la gueule du dragon.
Voilà, tout à fait. Ouais.
C'est en bois, c'est magnifique. Quoi.
Ah oui, oui, oui. Ou alors celui-ci, vous voyez, quand on voit le détail.
C'est le portrait d'une mamie, quoi, on va dire.
Oui, un petit peu, oui.
Ou d'un lutin, plutôt.
Mais quand on voit le détail sur le bois et tout, en général, c'était en bois de buis ou alors du noyer, ou alors enfin des bois fruitiers aussi, beaucoup. Quoi. Voilà, donc il y a beaucoup de détails. Donc là, celui-ci casse les noisettes.
Voilà, et on le fait par la bouche, voilà. Ouais. C'est ça, ouais. Voilà. Ouais. Et on mettait la noisette et on serrait comme une pince.
Oui, oui, et c'est très résistant. Hein. on a peur d'appuyer dessus, mais tout compte fait, moi, celui-là, il me sert chez moi, pour casser les noisettes. Donc, mais c'est très résistant. Hein. Ouais.
Vous venez d'où ? Parce que je sais que dans cette exposition, il y a des gens qui viennent de toute la France, et vous êtes d'origine d'où ?
Alors, je suis originaire de Loire-Atlantique, une commune qui s'appelle Thoiry, à côté de Nantes, à 12 km de Nantes. Voilà.
Et vous êtes venu jusqu'à Soumoulou ?
Voilà, c'est la deuxième année. La région me plaît bien. Et puis bon, je passe quelques jours après. Là, je repars pas tout de suite. Hein.
Vous allez profiter de notre région.
Voilà, tout à fait. Oui, je vais aller faire un petit tour, 2 ou 3 jours. Là, je vais rouler un petit peu dans le coin.
Merci beaucoup, toujours. Bonne exposition.
Merci beaucoup.
Au revoir. Allez, on continue notre petit parcours dans ce salon, dans cette exposition. Et là, on s'est arrêté sur une exposition d'étiquettes de fromage. Et en passant, vous disiez que vous aviez tout mangé. Alors, on a des caprices des dieux, on a de la vache qui rit, et puis on a un peu de tout.
Un petit peu de tout. J'ai tout mangé avant vous.
Qu'est-ce qui vous a pris de vouloir collectionner ?
Mais j'ai commencé cette collection-là, j'avais 10 ans. Donc j'ai 70 ans maintenant, donc imaginez tout ce que j'ai à la maison.
Hein ? Vous les avez tous mangés ?
Ah non, non, non. Non, non, non. Je rigole. Non, non, non. Non, j'ai commencé, j'avais 10 ans.
Et qu'est-ce qui vous a fait que vous avez voulu collectionner ça ? C'est quoi les images ? Il y a une histoire dans les images ?
Oui, regardez comme elles sont jolies vis-à-vis de ce que vous trouvez maintenant. Elles sont belles, regardez.
Oui. Alors, c'est sûr que les auditeurs ne voyaient pas, il n'y a pas l'image, mais ce sont des images de... Voilà, on a des... Elles datent de quand, ces images-là, par exemple, qu'on voit ?
Je ne sais pas trop.
C'est plutôt dans les années 30, 40, 50,
50, 60... Non, je n'en ai pas décidé que ça. Moi, j'ai commencé, j'avais 10 ans, donc dans les années 60. Mes premières datent des années 60, à moi. Les miennes, oui.
Et on a pratiquement tous les fromages.
Oui, j'ai tout. J'ai tous mes classeurs à la maison, des classeurs, rangés par thème, et après, ils sont rangés par série, enfin, tout... Par département, tout est rangé correctement.
Et c'est le plaisir des yeux.
Oui, parce que regardez que les oiseaux, les étiquettes comme ça, vous sentez.
Fauvette, voilà, le phénix, c'était quoi comme fromage ? Ça, des fromages à tartiner,
Ouais. Ça, c'est des vrais fromages, des camemberts, hein, c'est des camemberts.
Ouais, des camemberts.
Regardez ça.
C'est magnifique. On dirait presque des tableaux.
Oui, c'est ça, mais c'est ça. Je trouve que c'est malheureux qu'on ait plus des belles photos comme ça. Oui. Parce que maintenant, l'étiquette de maintenant, il y a des codes barres sur le dessus du fromage. Oui. Imaginez. Vous savez ce que je vais faire maintenant ? À la maison, quand je vais rentrer, je vais acheter des fromages, moches, que c'est qu'à le dire. Je vais faire un tableau comme ça et je mettrai un tableau d'étiquette qui n'y a rien dessus.
Qu'il y a rien,
pour faire voir avant et l'étiquette de maintenant et après. Oui, mais je vais le faire.
Eh bien, écoutez... On vous reverra peut-être l'année prochaine avec de nouveaux tableaux. Merci beaucoup, madame.
De rien, c'est gentil.
On continue notre tour dans ce salon. Et là, on s'arrête sur des objets qui sont en quoi ? En céramique, en porcelaine ?
En porcelaine, faïence, métal, verre. Il existe plein de matériaux différents.
Et donc, quand je suis passé devant votre stand, vous me dites c'est joli. Je vous ai dit c'est joli. Vous me dites vous savez pas à quoi ça sert. Et je vous dis ça ressemble à des théières ou. Et vous me dites pas du tout. Ça sert à quoi tous ces jolis objets qu'on a ?
Alors, ces objets s'appellent des biberons de malade. Cette appellation date de 1514. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et ça sert à donner à boire aux gens qui sont alités. Donc, quel que soit l'âge, 10 ans, 50 ans, 90 ans, ce sont des gens qui ne peuvent pas se relever pour boire. Et la forme permet de verser le liquide tout doucement, de façon à ce que la personne ne s'étouffe pas.
D'accord. Alors, vous m'avez fait voir ce qu'il y a aujourd'hui, qui est moche, qui est en plastique.
Hein. En plastique, tout à fait. Maintenant, on utilise du plastique. Eh bien, quand on n'aura plus de plastique, je pense qu'on va retourner à ceci, mais plutôt en verre. Parce que le verre est inaltérable et recyclable à l'infini. Alors que pas la porcelaine.
Et pas la porcelaine. Voilà. Ah, d'accord. Et pourquoi vous avez voulu faire cette collection ? Parce qu'il y a des objets
alors,
de partout.
Nous avons tendance à collectionner des objets insolites, de façon à faire découvrir aux gens des objets qu'ils ne verront peut-être pas ailleurs.
D'accord.
Et voilà, et en général, les gens sont assez contents de ce qu'on peut leur apprendre.
Et parce que, bien sûr, quand on s'arrête à votre stand, vous nous racontez un peu aussi l'histoire de chaque objet, à quelle époque il a été fait et où il a été.
Alors, c'est très compliqué à savoir les dates exactes. Je peux vous dire que j'en ai un en étain qui est fin 18e, début 19e, ça je le sais. Après, c'est compliqué.
D'accord. Mais ils sont beaux, certains sont décorés, certains sont blancs, certains ont de la peinture dessus, il y a des fleurs, je vois, voilà. Il y a la croix rouge qui a été dessinée.
Tout à fait. Alors donc vous en avez de la Croix-Rouge, mais vous avez aussi différents pays, hein, puisque nous en avons un chinois, nous en avons un japonais, nous avons un portugais, nous avons des belges qui sont pris pour des longouis qui ne sont pas du tout des longouis. Hein. Mais alors ce qu'il faut savoir, pourquoi c'est beau? Parce qu'à l'époque, les gens étaient principalement soignés à domicile. Et donc il fallait que l'objet soit presque plus joli que utile. Hein, parce que quand les gens rentraient dans la chambre voir le malade, ben, il fallait qu'ils voient des jolies choses autour. Et donc c'est pour ça que vous en avez qui sont très décorés. Voilà.
C'est magnifique. Bravo pour cette collection. Bonne exposition, alors bonne session.
Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée.